en arabe, on dirait Bin Bush, comme on dit Bin Laden. Parce qu'il est le fils de Bush, l'autre. Bin veut dire fils de. Il y a un journal que j'ai cité dans mon dernier article, je pense de Slovénie, qui fait la remarque. Et il dit, regardez combien Bush et Ben Laden se ressemblent. Ils utilisent tous les deux le même langage. Tous les deux disent qu'ils sont du côté du bien contre le mal. Tous les deux parlent de guerre sainte. En fait, on a l'impression que si Ben Laden n'existait pas, Bush l'aurait inventé.
Bonjour Mohamed, nous voilà à l'Olivier au marché Jean Talon, entre les quartiers d'agneaux, les sacs de couscous, les cages d'oiseaux peints qui nous rappellent Tunis et l'arôme des merguez grillées qui nous viennent de l'extérieur, sur le trottoir. Alors Mohamed, pendant qu'on est ici ailleurs dans le monde, il y a la guerre, il y a la famine, il y a la misère. Quand on voit l'abondance ici de tous ces produits, apparemment il y a eu 36 millions d'êtres humains qui sont morts de faim l'an dernier dans le monde. 36 millions, c'est plus que la population du Canada, Mohamed. Alors le Canada qui, comme tu sais, fait partie de la coalition qui bombarde l'Afghanistan, est-ce que le Canada devrait faire partie de la coalition? Est-ce que le Canada n'a pas un autre rôle à jouer? Enfin, tu m'as appelé ici pour que je te donne mon avis, voilà. Je te dis les choses telles que je les vois. Je m'appelle Jeanette Rahn, je suis journaliste à la presse.
Pour vous aider, monsieur.
Quand en Occident, au Canada aussi, on triomphe, on dit « nous avons gagné la guerre froide, nous avons fait éclater l'Empire soviétique dans notre confort nord-américain », nous oublions un peu vite que le peuple afghan a payé de son sang et de sa jeunesse et de sa vie cette victoire. Cette victoire a été remportée dans la dernière phase par le peuple de l'Afghanistan pendant 10 années. Ce sont eux qui ont servi de chair à canon dans la rivalité Est-Ouest. C'est que nous n'avons pas envoyé des Canadiens en Afghanistan pour aller combattre les Soviétiques qui occupaient le pays. Les Américains n'ont pas envoyé des Américains se battre. Ni les Français, ni les Allemands, ni les Italiens, ni les Européens. Ce qu'on a fait, on a recruté des Afghans dans les camps de réfugiés au Pakistan. Et avec l'aide de l'armée pakistanaise, on les a entraînés, on les a formés, on les a armés, on les a financés. Et en plus, comme c'est des musulmans nationalistes, très fiers de leur pays, qui ne pouvaient pas tolérer qu'une puissance étrangère vienne occuper le pays, les prêtres, les imams au Pakistan, les ont endoctrinés pour qu'ils aillent se battre et se faire tuer au nom de la foi et au nom de la patrie. Et c'est comme ça qu'ils ont battu l'armée soviétique. Et c'est comme ça qu'on les a formés. Ils sont un peu nos enfants. Les moudjahidines, ensuite les talibans, ceux à qui on fait la guerre maintenant. Donc on les connaît bien.
Assalamu alaikum.
Le régime militaire, le régime du parti unique en Algérie, qui ne voulait pas de démocratie et ne voulait pas démocratiser, tout à coup a trouvé un alibi qui s'appelait le terrorisme islamiste. Et là, il a dit aux démocrates, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec les terroristes. Et en Tunisie, c'est la même chose s'est produite. En Égypte, c'est encore les mêmes régimes qui étaient au pouvoir pendant la guerre froide, qui sont toujours au pouvoir, dans la plupart des pays arabes, et encore plus dans le Golfe, là où se trouve le pétrole. Tous ces régimes-là sont encore là, en place, et le terrorisme islamiste est devenu leur alibi pour se maintenir au pouvoir. Il y a beaucoup de musulmans et beaucoup d'arabes non-musulmans aussi, parce qu'il y a énormément de chrétiens dans le monde arabe. Ils sont 10 millions en Égypte, on oublie souvent. Il y a beaucoup de chrétiens arabes qui luttent pour réclamer les droits humains, pour réclamer les libertés fondamentales, pour réclamer les droits des femmes. Et tous ces gens-là sont coincés aujourd'hui entre avoir à choisir entre les régimes en place et Ben Laden. Tout comme Bush aujourd'hui nous dit à nous, ou vous êtes avec nous ou vous êtes avec Ben Laden. En fait, Ben Laden est un ami très connu des Américains. Il a travaillé avec les Américains pendant la guerre afghane pour former les Moudjahidines et les talibans qui sont devenus aujourd'hui les terroristes. Son rôle, c'était de faire la tournée des pays arabes pétroliers pour ramasser de l'argent. Parce que c'est une guerre aussi, c'est pas les Américains qui l'ont financé la guerre en Afghanistan. Ils l'ont fait financer par les pays arabes riches. Et Ben Laden était responsable de la collecte des fonds. C'était le bagman de l'opération. Il passait dans les Émirats, il ramassait l'argent et en plus, il avait les doigts dans le trafic de la drogue. Et une bonne partie de cette guerre contre l'armée soviétique a été financée par le trafic de la drogue. Et donc, nos gouvernements, à tout le moins nos services secrets et nos agents, étaient au courant. Mais aujourd'hui, on nous sort des chiffres énormes pour nous dire qu'on gèle les fonds des terroristes. Mais tout ça nage dans un flou terrible. L'événement du 11 septembre est utilisé, je dirais même exploité, par tout le monde, chacun à sa façon, pour faire avancer ses intérêts ou pour promouvoir ses intérêts. On voit que les États-Unis poussent, si on veut, le front beaucoup plus vers l'Est, vers l'Afghanistan, et ce n'est pas innocent dans la mesure où l'Asie centrale est un centre géographique du monde qui est très important au point de vue du contrôle stratégique, parce que c'est à la frontière entre la Chine, la Russie et l'Inde, et le golfe du pétrole, l'Iran. Et deuxièmement, il y a là des réserves de gaz et de pétrole qui sont énormes, que les grosses compagnies multinationales veulent extraire. Et le problème, c'est que, un, ils ne peuvent pas extraire pour l'instant ces ressources parce qu'ils n'arrivent pas encore à ouvrir ces régimes à la pénétration capitaliste. Et deuxièmement, ils n'arrivent pas encore à trouver un territoire stable et contrôlable pour pouvoir construire les pipelines pour amener ce gaz et ce pétrole jusqu'à l'océan, pour pouvoir les embarquer sur des pétroliers, etc. Ce qui s'est passé le 11 septembre, à juger l'événement tel que nous le connaissons maintenant, c'est un acte terroriste. Maintenant, un acte peut-être terroriste et de résistance en même temps. C'est pas facile à définir. Et c'est là le grand problème quand George Bush veut embrigader le monde entier dans le combat contre le terrorisme. C'est sûr que les 189 pays membres de l'ONU ne pourront jamais se mettre d'accord sur une seule définition de terrorisme. Parce que, par définition, comme on dit, celui qui est un terroriste pour quelqu'un, pour un autre, c'est un guérilla, c'est un combattant de la liberté. Les Américains qui se sont battus contre la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, pendant la guerre d'indépendance, pour eux-mêmes, c'était des combattants de la liberté. Mais pour l'autorité britannique, qui était l'autorité sur les colonies américaines, ils étaient des terroristes. C'est très difficile, même pour des avocats et des hommes de loi, de s'entendre sur une définition. Et ça, c'est un des grands problèmes qui ne peut pas être débattu, encore moins résolu, dans le cadre du battage de propagande, du charriage idéologique qui se fait jusqu'à maintenant dans la foulée du 11 septembre. Qu'est-ce qui va se passer si la coalition s'effrite? À mon avis, les Américains et les Britanniques vont continuer à frapper. Ils vont continuer à frapper, surtout maintenant qu'ils ont réussi à embrigader le Pakistan. Et même l'Inde est très contente. C'est assez étonnant parce que le Pakistan, l'Inde, qui étaient des ennemis, des frères ennemis depuis 50 ans, là, tout à coup, à propos de la guerre contre le terrorisme, ils sont tous les deux d'accord. Parce que le Pakistan utilisait des terroristes de l'Afghanistan pour les envoyer au Cachemire, aller attaquer les troupes indiennes. Alors, maintenant que le Pakistan est obligé de faire la guerre à ces mêmes terroristes, l'Inde est d'accord, le modèle irakien est là. On voit que les Américains et les Britanniques font fi de la volonté internationale. Ils continuent de bombarder l'Irak. Ils continuent d'insister pour le maintien des sanctions qui tuent les enfants. Et je ne serais pas étonné de voir qu'ils répètent la même chose avec l'Afghanistan. Après 10 années d'expérience, on a vu ce qui s'est passé dans les Balkans, en Bosnie, au Kosovo. On a vu ce qui s'est passé en Afrique centrale, au Rwanda, au Burundi, au Congo. Et maintenant, avec l'Afghanistan, je pense que le Canada, qui a toujours eu la réputation d'être un pays de paix, un soldat de la paix, et le Canada qui s'est mérité le prix Nobel de la paix pour son rôle de maintien de la paix au Moyen-Orient, en 1956, avec Lester Pearson, et le Canada qui a toujours été un grand défenseur de l'ONU, que le Canada aurait certainement dû, au lieu d'emboîter le pas à cette opération américaine, américano-britannique et de l'OTAN, exiger en fait que toute cette question soit amenée à l'intérieur de l'ONU. Je pense que le Canada aurait mieux fait de renouer avec cette histoire très noble, promoteur de la paix et de défenseur de la paix, et de promoteur du système des Nations Unies, qui est un système où on peut discuter à tête froide. C'est vrai que l'événement du 11 septembre est un événement sans précédent, mais ce n'est pas une raison pour que tout le monde perde la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Qui a fait le coup? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pense que l'humanité est quand même beaucoup plus grande que les seuls États-Unis. On se trouve malheureusement dans cette mentalité post-11 septembre de psychose collective. Les pays pauvres, je pense à Haïti, je pense au Congo, je pense au Bangladesh, je pense aux Palestiniens, ça fait des décennies, des générations qu'ils souffrent et ils n'ont pas abandonné ni leur bon sens, ni leur patience. Et le monde n'est pas sur le point de disparaître. Je ne vois pas pourquoi, ici, on ferait preuve de moins de bon sens et de moins de patience.